Élie s'enfuyant au désert. L'auditeur est prié de se reporter à sa Bible pour la lecture des textes, premier livre des Rois, chapitre 19, versets 1 à 18.
Depuis ce grand événement du mont Carmel qui venait de se produire, Élie espérait un grand changement qui aurait été comme la conséquence à attendre, la conséquence naturelle de l'intervention divine consumant l'holocauste du prophète sur le Carmel. Un retour du roi et du peuple à son Dieu n'était-il pas, en effet, dans la logique des choses? Car l'événement du Carmel devait avoir été fortement ressenti par le roi et par le peuple. Il y avait eu là bien autre chose que la prédication de Jonas à Ninive, et pourtant cette ville s'était repentie. Là, au Carmel, Dieu s'était glorieusement manifesté et la crainte de son nom avait obtenu là une nouvelle force pour pénétrer les cœurs et s'y établir. Mais à la cour du roi Achab, ce n'est pas un changement qu'Élie peut constater, mais au contraire un acharnement de la reine Jézabel, acharnement d'autant renforcé depuis l'égorgement des prophètes de Baal. La version des Septante, c'est-à-dire la version grecque de l'Ancien Testament, qui avait été établie quelque temps avant la venue de Jésus, fait dire à Jézabel ceci. Là, ici, notre texte dit je ne fais si demain à cette heure que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et la version des Septante dit ceci. Si toi tu es Élie, moi, je suis Jézabel. Si toi, tu es Élie, eh bien, moi, je suis Jézabel. Tu as fait ce que Élie, le prophète, croyait devoir faire. Eh bien, moi, Jézabel, tu vas voir ce que je fais. Ah, la menace était donc non dissimulée et ardente. Le roi Achab est rentré à son palais. Et la première des choses qu'il a faites, c'est de tout raconter à sa femme, de ce qui s'était passé sur le mont Carmel, et notamment l'égorgement des prophètes de Baal. Il n'a pas saisi l'autorité d'un roi d'Israël et d'un exécuteur de l'autorité divine. Loin de là, il reste le jouet de cette terrible femme idolâtre et impie, dont c'est l'autorité qui va continuer de sévir. Son pouvoir n'est pas atteint par l'événement du Carmel, dont elle vient d'avoir le récit par son mari, et son pouvoir semble n'en être que plus fort, et il engloutit complètement le pouvoir du roi. Achab demeure donc cet homme faible, le docile instrument de cette épouse, et capitule à nouveau devant sa mission, dont il a complètement perdu la notion. Élie est étonné de tant de lâcheté. Lui qui a couru devant le char d'Achab parce que il le voyait rétabli comme loin de l'Éternel, le roi loin de l'Éternel. Et il l'a eu à cœur, et l'Esprit lui a mis à cœur d'honorer loin de l'Éternel. Alors maintenant qu'il entend cette menace de Jézabel, il est tout étonné de cette lâcheté du roi et aussi de l'audace de la provocation de cette terrible femme. Alors, Élie, le prophète de Dieu, sombre brusquement dans le plus noir découragement et ressentant au fond de son cœur même de l'amertume, il s'enfuit. Et il s'enfuit pour quoi faire ? Pour sauver sa vie. Dans le texte, littéralement, dans le texte hébreu, ce qui est traduit ici par « sauver sa vie » s'exprime littéralement ainsi. « Et il alla à son âme. » Il alla à son âme. C'est-à-dire que il agit, il va agir en consultant, en ne consultant que le soin de sa vie. Il alla à son âme, c'est-à-dire là où sa pensée va le mener hors de toute direction divine. C'est le temps pour lui d'une humiliation cuisante. Nous avons tout de suite là une leçon à recueillir. Il faut jamais manquer, je vous l'ai dit en méditant l'Écriture, de recueillir les leçons, et l'Ancien Testament est une gerbe merveilleuse de leçons spirituelles. Éminemment spirituel, magnifiquement spirituel pour nous, l'Église. Ce sont des leçons, ce sont des messages spirituels, pas sur un support historique, sur le support constitué par des récits d'événements, de choses qui se sont produites. Cela est arrivé pour notre instruction, cela est arrivé, il y a eu effectivement de tels événements. Ils sont relatés par inspiration d'esprit, et tout cela est généreux en leçons spirituelles pour nous. Alors, sachons les recueillir, et n'étudions pas, comment dirais-je, d'une façon terre à terre, l'Ancien Testament, comme j'ai quelquefois vu le faire. On regarde l'histoire, on s'en tient à l'histoire, on raisonne sur l'histoire, sur les faits matériels, et c'est tout. Et l'on ne voit pas jaillir de tout cela le message spirituel de Dieu pour nous. À certains moments, il semble que les voies de Dieu soit aisément surmonté par l'ennemi, et que celui-ci gagne du terrain loin d'en céder en gagne. Il gagne du terrain. Il semble même que ceux qui, ou celui qui a servi l'Éternel, ait été inférieur à sa tâche. Et c'est bien ce qui arrive à ce prophète Élie, qui va tout de suite dire « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ce qui littéralement signifie « Je ne suis pas davantage apte que mes pères à accomplir ton œuvre et ta mission. » Je ne suis pas, je me suis cru. Ah, et comme de tout le monde, comme bien des gens, il s'était cru, lui, capable de faire davantage que ses pères. Là où d'aucuns avaient échoué ou n'avaient pas pu accomplir véritablement la mission de Dieu jusqu'à son plein accomplissement, eh bien lui, Le prophète Élie partit avec cette force qui était spirituelle, certes, mais aussi, bien sûr, parti en homme. Il était un homme de la même nature que nous. Il avait pensé, sans un orgueil peut-être particulier, mais pensé que, recevant cette force de Dieu, ce message de Dieu, y consacrant vraiment toute sa vie, car il y consacrait sa vie, eh bien, il avait dit, il avait pensé qu'il allait aboutir, réussir, ou d'autres n'avaient pas réussi. Et il s'aperçoit qu'il n'en est pas ainsi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas plus capable qu'ils l'ont été dans les situations difficiles. Et c'est le découragement. Comme Élie, l'on s'arrête souvent à une vue actuelle des événements, une vue des événements tels qu'on les a sous les yeux. Et ces événements prennent un sens de défaite et non pas de victoire. Alors, on s'arrête à considérer ce sens. Ce que signifient les événements, ils signifient une difficulté grandissante, une menace plus dur encore, il signifie un péril imminent, et il signifie, en somme, un non-succès. Et l'ennemi semble avoir, lui, au contraire, renforcé sa victoire. Et quand on regarde cela, eh bien, on est tout simplement dans l'erreur. Et l'on s'écarte des vues de l'esprit. Oh, c'est facile, je ne dis pas ça, pour tel membre de l'Église qui serait plus faible que d'autres, je dis ça pour le plus grand prophète, le prophète Élie, je dis ça pour tout serviteur de Dieu, même expérimenté, il arrivera à un moment de sa vie où il se dira, mais vraiment, non, non. C'est l'échec. Non, ça ne va pas. Nous reculons, nous n'avançons pas. Que se passe-t-il? Et en ne regardant que le sens apparent et actuel des événements que l'on a sous les yeux, on ignore. Et on ne veut pas voir que dans l'invisible, une victoire est cependant remporté. Mes amis, là où il y a sur la terre toute apparence de défaite, dans l'invisible, je dis si l'on a suivi, bien sûr, la consigne de Dieu, avec fidélité, abnégation, en se donnant entièrement à cette mission, bien sûr, eh bien, je dis que dans l'invisible, il y a une victoire. Une victoire qui, elle, n'est pas apparente et qui est remportée même contrairement aux apparences. Et c'était le cas d'Élie. L'apôtre Paul souligne cela dans les Romains, lorsque, au chapitre 11, verset 1, il écrit, chapitre 11 des Romains, verset 1, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? » Parce que c'est bien ce qu'il semblait du temps de l'apôtre Paul que le peuple d'Israël était rejeté. « A-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie ? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Ça, tu l'ignores, Élie. Tu ignores ces choses. Tu ne les vois pas, ces choses. Mais dans l'invisible, elles sont là. Dans l'invisible, depuis ce Carmel particulièrement, eh bien, il y a eu comme un rassemblement, peut-être pas de tout le peuple, non, tu ne le vois pas, mais il y a eu un rassemblement de 7000 hommes et qui avaient lutté et qui n'avaient pas voulu céder au penchant de tout le peuple de vers l'idolâtrie et qui avaient résisté magnifiquement. Et lorsqu'ils ont vu alors le feu de Dieu descendre sur l'Holocauste, alors ces hommes ont été réjouis et leur fidélité est là comme scellée, tout à nouveau comme garantie. Eh bien, voilà ce qui est arrivé. Ça, tu ne le sais pas, Élie. Regarde les événements, et ils sont, semble-t-il, négatifs. Il n'y a point de résultat, à tes yeux, de cette intervention puissante de Dieu sur le Carmel. Et cependant, dans l'invisible, si tu voyais là, si tu t'attendais aux informations que l'on peut trouver, qui sont celles de la vérité, celles de l'état exact de cette lutte de Dieu contre les ténèbres, alors là tu verrais qu'il y a une victoire. L'on ignore aussi que Jézabel et Achab ajoutent à leur ignominie, comme tous les ennemis de Dieu, lorsque ils continuent, ils poursuivent leur terrible voie. Ils ajoutent à leur ignominie, mais ils marchent vers le comble mis à leur péché, et ils marchent vers le jugement dont Dieu les frappera bientôt. Cela aussi, tu l'oublies, prophète Élie. Élie veut donc sauver sa fille, c'est-à-dire, nous l'avons souligné, il va prendre soin de sa vie. Sa pensée maintenant, c'est de se préoccuper de sa vie, prendre soin de sa vie et aller à son âme, aller selon sa pensée, aller vers ce qu'il croit être le moyen d'échapper à la main criminelle de Jézabel. Il a bien résisté, ce prophète, aux épreuves de sa foi, lorsqu'il est resté au torrent de Kérit, lorsqu'il était nourri par les corbeaux. Nous avons dit que ça avait duré le torrent de Kérit et la veuve de Sarepta au moins 2 ans. Il est donc resté de longs mois là, dans cette situation particulière, seul, devant maintenir chaque jour sa confiance en Dieu. La veuve de Sarepta est une femme qui ne possède plus rien, qui est au bord de la mort. Elle va survivre et faire vivre aussi le prophète, parce que l'on restera ensemble suspendu à la parole de Dieu. Il y a aussi cette mort inattendue du fils de la veuve qui déconcerte un moment le prophète, mais il résiste bien encore à cette épreuve et il accomplit ce que l'Esprit lui montre. Il avait donc magnifiquement exécuté ce que l'Éternel avait mis devant lui. Il avait exécuté notamment avec foi et décision cette grande démonstration qui provoquera la confusion des prophètes de Baal sur le mont Carmel et qui avait contribué à la manifestation de la gloire de Dieu. Tout cela, il l'avait supporté. Il avait supporté tout cela, il y avait pour lui des épreuves en cela, il avait supporté tout cela avec foi et avec confiance. Et voici que maintenant, subitement, il flanche. et voici qu'il faiblit dans sa confiance et dans sa foi. L'Éternel l'a-t-il conduit là pour le jeter entre les griffes de cette femme, de ce terrible ennemi? C'est pas possible, mais il ne pense plus à ça. Sa propre pensée prend le pas sur la vision du prophète. Ah, c'est vite fait ce renversement. La vision, la pensée de l'homme, là vient là, et puis c'est une bouffée, et ça éteint complètement la vision. La vision se trouve éteinte. On ne voit plus, on ne comprend plus ce qu'on a fait, ce qu'on est là, on n'y voit que du négatif. Voilà la situation du prophète. Sa chair, car c'est sa chair, il est un homme de la même nature que nous, souligne le Nouveau Testament, sa chair s'émeut, s'inquiète et le met en déroute. Voilà l'épreuve, la première épreuve, qu'il ne peut plus supporter. Il ne supporte plus cette épreuve. Oh, Dieu ne va pas abandonner son prophète, bien sûr. Mais, mes amis, qui dira, qui prétendra qu'il ne passera pas, lui, par une épreuve mal supportée? Une épreuve qui le trouvera, là, subitement en arrêt. Une épreuve qui le fera se replier sur sa chair. Qui prétendra ça? Eh bien, je dirais que celui qui prétendrait qu'il n'a jamais, lui, faibli dans une épreuve, je dirais, mon ami, tu as encore bien des épreuves à supporter pour être vraiment ce que l'Éternel veut que tu sois. Alors, ce n'est pas la pierre que nous jetons à Élie ou à tout homme ou à toute femme dans le peuple de Dieu et qui arrive à une telle situation qui craque, qui faiblit à un certain moment. Mais cette expression « aller à son âme » ou traduite comme elle l'est ici « sauver sa vie » nous fait penser à quelque chose du Nouveau Testament, un enseignement du Seigneur Jésus, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Autrement dit, le Seigneur ici énonce les conditions, si je puis dire, du salut, ou plutôt les situations, les états dans lesquels devra entrer celui qui prétendra venir après lui, c'est-à-dire le suivre. Eh bien, il faudra qu'il renonce à lui-même. Il faudra qu'il se charge de sa croix et qu'il se mette à suivre le Seigneur, marcher le même chemin que lui. Car, dit le texte, celui qui voudra sauver. Ah, celui qui voudra sauver sa vie, c'est celui qui ne voudra pas porter vraiment sa croix, qui ne pourra pas porter sa croix, et la croix est un instrument de supplice. La croix, ce ne sont pas des ennuis, ce ne sont pas des charges matérielles ou familiales lourdes et insupportables. Non, ce n'est pas cela, la croix. C'est un instrument du supplice, c'est porter la mort, c'est entrer dans la mort avec Christ, et c'est y rester dans cette mort, tous les jours, porter sa croix tous les jours, chaque jour, dira un texte parallèle. Alors, se charger de sa croix, et celui qui voudra sauver sa vie, eh bien la perdra, parce que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera ou la retrouvera en vie éternelle. Eh bien, voilà bien ce qui arrive à notre prophète Élie. Il a bien renoncé à lui-même, je le soulignais tout à l'heure, mais il se sent en ce moment
la charge d'une croix et qu'il ne connaît pas. Voilà en quoi cette épreuve a un caractère inattendu pour lui et un caractère tel, une exigence, disons, telle, qu'il est surpris dans sa foi, dans sa fidélité, et il défaille. Sa foi est là, mais elle ne se sent plus le ressort nécessaire pour traverser une telle épreuve. Il se sent la charge d'une croix qu'il ne connaît pas. Quelle est en effet cette terrible menace de mort? La croix, je le rappelle, est un instrument de supplice. Et la porter, c'est bien porter cette mort avec Christ. C'est bien porter, n'est-ce pas? C'est bien entrer, c'est bien aller dans la mort avec Christ pour vivre en résurrection, en vie de résurrection avec lui. Mais cette croix est lourde, est trop lourde pour ses épaules d'homme. Et nous comprenons la chose. Nous sommes dans l'Ancien Testament. La révélation, je vous le disais ce matin, est progressive. Elle marche au pas de l'histoire, de cette histoire particulière du peuple d'Israël, qui est un peuple de Dieu. Même s'il se détourne, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple que la main de Dieu conduit, c'est le peuple dont Dieu va se servir pour le salut du monde. Le salut vient des Juifs. Nous comprenons tout cela. Et alors, nous sommes là, nous sommes au cours de la révélation. Et les hommes qui vivent au cours de cette révélation progressive, intervenant dans cette histoire au cours de laquelle la révélation de Dieu progresse et se fait jour, eh bien, ces hommes éprouvent des situations qui sont nouvelles pour eux, des situations nouvelles, et ces situations ont un sens prophétique. Ces situations sont le préalable d'une situation qui va se rencontrer plus tard dans les siècles, dans les âges, une situation qui va être celle du grand Salomon, qui va être celle du Messie, qui va être celle du grand vainqueur, qui va être celle de ce fils de l'homme si beau, si grand, magnifique du psaume 45. Mais celui que Dieu appelle, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Alors, toutes ces situations sont préalables. Elles sont prophétiques en ce sens qu'elles sont préalables. Ce sont des auxiliaires de Dieu. Et voici qu'il rencontre une situation qui prélude, qui est prophétise, qui annonce, mais qui prélude à la situation, la grande situation au cours de laquelle le grand vainqueur va remporter, lui, la victoire définitive. Ce n'est pas à Élie de porter la croix le premier. Ce n'est pas à lui de porter la croix le premier. Un autre viendra pour cela. Mais pour lui, la croix est maintenant trop lourde. Cette perspective d'une croix est trop lourde pour lui, et ne nous en étonnons pas. Si Élie n'avait pas fléchi là, mais nous nous dirions, qu'est-ce que c'est? Comment se fait-il que lui, à ce moment de l'histoire, manifeste une force, une telle force? Nous serions étonnés du contraire, chers amis, voyez-vous, parce que, lisons, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 41, là nous sommes dans le jardin de Gethsémané, et voici le Seigneur Jésus y est entré, verset 41, puis il s'éloigna d'eux, ses disciples, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Dans cette coupe, qu'y a-t-il ? Il y a non seulement une mort physique, il y a la mort physique, ça, c'est une nécessité, mais cette mort physique, elle n'est, pourrait-on dire, que l'événement visible qui est étroitement lié avec un grand combat, un combat extraordinaire, surhumain, qui est étroitement lié avec l'engloutissement du péché des hommes. Lié à cela, et c'est cette coupe dans laquelle il y a toute l'amertume, il y a tout le péché des hommes, c'est cette coupe-là que le Seigneur Jésus voit et dont il ressent là toute l'aigreur. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, comme un ange va venir auprès d'Élie pour le fortifier aussi, afin qu'il puisse continuer sa route. Un ange va venir. Quelle chose extraordinaire! Comme en effet l'histoire était bien conduite! Comme en effet les hommes passaient bien par des chemins qui déjà profilaient le grand chemin du Fils de Dieu, accomplissant la rédemption, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang et qui tombaient à terre. La lutte, une lutte. Et cette lutte-là, Élie en ressent comme les prémices, comme un avant-goût, car il y a le peuple, il est le prophète de Dieu, il a livré sa vie, il a donné sa vie à Dieu, il a abandonné à Dieu, tout cela il l'a fait pleinement, il est le prophète de Dieu, et il a la vie du peuple sur son dos, c'est trop lourd, et le peuple, en la personne de cet ennemi Jézabel, comme devant Jésus, en la personne de Satan, alors le peuple veut l'enserrer dans cette mort, mais non seulement lui, Élie, mais toute sa mission, mais le peuple qu'il porte sur ses faibles épaules. C'est trop fort pour lui, c'est trop lourd pour lui. Et mais il est là encore dans un passage qui prophétise. La prophétie n'est pas seulement la parole, la prophétie se lit dans l'histoire, dans les événements. L'ennemi est encore en pleine force. Il semblait aussi que Jésus fût seul. Élie se voit seul, abandonné de tous. Mais après la croix, après la victoire, alors des milliers d'hommes se lèveront à la prédication de la croix qui paraissait être la défaite. Tout était perdu. L'évangile, les disciples, les apôtres, Pierre, recevant les clés du royaume de Dieu, que fait-il ? Les clés, il s'en va, il fuit, il renie. Tout est perdu. C'est la défaite. Non, dans l'invisible, c'est la grande victoire. Ah, chers amis, il faut comprendre ces choses. Et croyez-vous que le cours de notre vocation, de notre carrière, je dirais notre carrière d'enfant de Dieu, de chrétien, n'empruntera pas des sentiers parallèles. Mais si, si nous sommes morts avec Christ, nous participons à sa mort. Et si la mort de Christ agit en nous, la vie de Christ aussi agira en nous. Mais songeons que c'est là notre chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est là notre chemin. Et rien d'étonnant que préalablement, ce fut aussi le chemin de certains auxiliaires de Dieu. Vous voyez comme ces textes sont riches, qu'ils sont vraiment empreints d'une force prophétique merveilleuse. Je voudrais encore rappeler ici qu'il y a eu, sur la conduite d'Élie ici, jugée superficiellement, comme d'aucuns se plaisent toujours à le faire, faute de consulter l'Esprit de Dieu. Il y a eu de fausses interprétations, je l'ai déjà signalé l'autre jour. On a prétendu faussement, en effet, qu'en égorgeant les prêtres de Baal, Élie avait outrepassé sa mission, qu'il avait fait œuvre d'atrocité, il s'était laissé emporter par une sorte de colère, et qu'il avait déplu à l'Éternel par cette atrocité, l'égorgement des prophètes de Baal. C'est un aveuglement, cela. Élie a appliqué fidèlement la loi, je l'ai montré. Il a appliqué la loi fidèlement, en égorgeant les prophètes. S'il ne l'avait pas fait, il eût été, lui, alors tel qu'un Saül, ménageant Amalek, les ennemis de Dieu, il n'eût pas été autre que Saül. Donc, ce qu'il a fait, il l'a fait vraiment selon la fidélité à la loi de Dieu. Et la preuve en est, ici, dans ce chapitre, c'est que ce que l'Éternel lui dit sur le mont Horeb, particulièrement le verset 17, « Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » Voilà, n'est-ce pas, ce que Élie est chargé de déterminer, parce qu'il va oindre ses hommes, il va oindre Hazaël, il est chargé d'oindre Hazaël pour roi de Syrie, d'oindre Jéhu, fils de Nimsri, pour roi d'Israël, et oindre Élisée pour le remplacer. Eh bien, ces gens qu'il va oindre, il va les oindre comme quoi, comme exécuteurs du jugement de Dieu, et il y aura, l'épée va marcher, va donner, l'épée va bondir sur l'ordre de Dieu, et il va se produire des choses encore plus atroces, si je puis dire, n'est-ce pas, que l'égorgement des prophètes de Baal lors de ce grand événement du Carmel. Par conséquent, vous voyez bien que Dieu n'est pas en colère ou n'est pas contraire à son prophète, dans une position opposée à celle du prophète, pas du tout, n'est-ce pas, puisqu'il lui commande des événements qui vont être eux aussi terribles ou atroces, humainement parlant, bien sûr, peut-être même plus atroces encore que la mise à mort des prophètes. Alors, ce qui a dit cela, et on l'a prêché, alors là j'en suis vraiment mari, qu'on ait prêché cela, que Élie avait débordé sa mission, n'est-ce pas, ça c'est la critique humanitaire à laquelle certains ont soumis les hommes de Dieu de la Bible, et cette critique provient d'un aveuglement, d'une ignorance flagrante des desseins de Dieu, et aussi pour, dans certains cas, d'une mauvaise foi, car disons, si l'on fait cette sensibilité aujourd'hui, non, vous comprenez, il y a déjà pas mal de temps que cette sorte de sensibilité humanitaire est apparue dans des commentaires et des appréciations, eh bien, alors, ceux qui font cela, eh bien, ils ignorent que les hommes, pour garder leurs biens matériels ou pour les accroître, de même que pour asseoir leur pouvoir, vont livrer, en somme, à la mort des millions d'autres hommes, soit par guerre, soit autrement, et de cela, alors, on ne prend aucun souci. Mais s'agit-il de l'épée que Dieu ordonne de mettre en mouvement, alors là, bien sûr, on s'insurge au nom d'une charité hypocrite. Vous voyez, par conséquent, n'est-ce pas, que il ne s'agit pas ici de taxer le prophète Élie d'un dépassement de sa mission, d'un excès de sévérité, pas du tout. Et il faut que ces gens qui se livrent à la critique humanitaire, ces détracteurs de la conduite des auxiliaires de Dieu, voient une chose. Il faudrait qu'ils voient une chose, j'ai dit qu'ils étaient dans l'aveuglement, parce que, en somme, ils ne savent pas, ils ne voient pas que toute tolérance à l'égard de l'idolâtrie et de la provocation envers Dieu est le seul véritable crime, non seulement contre Dieu, mais contre la vie, contre l'humanité. C'est ça le crime. C'est ça le grand crime. Et c'est un crime qui demande immédiatement jugement dans certains cas. C'est ça le crime. La superstition, l'apostasie, perdent le monde. Perdent le monde, c'est-à-dire le voue à la mort, et ne le sauve pas. Comme d'aucuns prétendraient, il ne s'agit pas de sauver la vie d'hommes qui sont livrés à l'idolâtrie, à la superstition. Seul l'évangile vrai, l'évangile pur, l'évangile par l'esprit, dégagé absolument de toute autre chose, de toute intervention notamment de la pensée humaine, de la chair, seul l'évangile vrai dans toute sa lumière, dans toute sa vérité, seul lui sauve les hommes. Mais tout le reste les perd. Et c'est pourquoi le jugement est juste. Le jugement est juste. Et cela sera dit lors des jugements de l'Apocalypse. Tu es juste en tes jugements. Tu es saint en tes jugements. Et voici que Élie s'engage dans le désert. Après avoir laissé son serviteur à Beersheba, qui appartient à Juda, il s'en va, lui, dans le désert et fait une journée de marche. Pas très loin de Beersheba, il s'en va dans le désert, le Negev, tel qu'on le nomme maintenant, et il s'assoit sous un genêt, demandant la mort et disant à Dieu, « C'en est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se couche, il s'endort sous ce genêt qui n'est que un petit arbre aux branches assez espacées, aux feuilles bien étroites. La couverture de ce genêt est bien maigre, c'est une plante encore de ce désert, mais peu généreuse en ombre et en protection. Et voici que pendant son sommeil, un ange survient, et nous avons dit tout à l'heure, comme à Gethsémané, un ange est venu fortifier le Seigneur Jésus. Et cet ange place à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau, et lui dit, lève-toi, mange. On pourrait dire, mais où cet ange a-t-il trouvé un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau? Ben, demandons aussi où un certain matin, à une certaine aurore, à la pointe du jour, sur la rive du lac de Galilée, où le Seigneur Jésus ressuscité avait-il trouvé un feu et des poissons et du pain? Où avait-il eu cela, le Seigneur Jésus? Mes amis, laissons cela dans le grand mystère de celui qui peut tout, de celui qui est maître de tout et qui ne fait pas ces choses pour démontrer sa grandeur et sa puissance, mais qui les fait selon son amour quand il le faut. Eh bien ici, l'ange apporte donc un gâteau, l'ange va une seconde fois toucher, et vous voyez que l'ange peut toucher. Nous voyons cela en d'autres circonstances. Il touche le corps, il remue un peu Élie, il le réveille. Il y aura un ange aussi qui viendra réveiller Pierre dans sa prison. Allons, lève-toi, dépêche-toi, habille-toi, mets tes sandales, vite, on s'en va. Hein? Eh bien, l'ange donc le toucha une seconde fois et lui commande de manger. Et il lui dit, mange car le chemin est trop long pour toi. Alors Élie se leva, mangea, but, avec la force que lui donna cette nourriture. Car ce gâteau ne pouvait être qu'un gâteau miraculeux. Ah, une nourriture exceptionnelle, une nourriture qui va donner une force surhumaine. Est-ce que le Seigneur n'a pas de ces nourritures-là, mes amis? En tout cas, il en a pour l'âme, bien sûr, mais il peut en avoir aussi pour les corps. Il peut en avoir pour l'être humain tout entier qui le sert, qui l'aime, et qui ne se détourne pas de la voie droite, de la voie juste. Il peut avoir de cette nourriture, de force. Et on connaissait cela, le gâteau de raisin, par exemple, du temps de David. Le gâteau de raisin, c'était une nourriture de force aussi. Et ça tenait sa force plus, une force supplémentaire, une force qui n'était pas due seulement à la farine du gâteau et au raisin. Mais c'était un gâteau de raisin et on rendait grâce à l'Éternel. Il y avait une force dans ce gâteau. Et là, Élie va marcher pendant 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. Parce qu'il faut qu'il aille à Horeb, c'est-à-dire à la montagne du Sinaï. Et là, il en est environ à 280 kilomètres à vol d'oiseau. À vol d'oiseau, mais les chemins n'étaient pas droits, et il y avait des montées, des descentes, des détours. Combien cela faisait? Je ne sais pas, peut-être 400 kilomètres, et il fallait faire cette route en 40 jours et 40 nuits, et pour cela, il fallait bien sûr disposer d'une telle force. Eh bien là, c'est encore quelque chose par quoi l'Éternel lui montre qu'il est toujours là. Elle lui montre que lorsque l'on a perdu ses forces, lorsqu'on se sent faible, eh bien, il y a des moments où il est assez bon de se sentir faible. D'ailleurs, c'est dans la faiblesse de l'homme. Quand l'homme est humilié, profondément humilié, et qu'il voit qu'il n'est pas meilleur que ses pères, et qu'il voit qu'il ne peut plus, il a peut-être trop voulu compter sur lui, alors là, il s'aperçoit que non. Il est à zéro, il n'a rien, rien, rien. Alors, le Seigneur lui montre que lui donne la force. Lui peut communiquer de la force. Que fais-tu ici, Élie? Lorsqu'il arrive à Horeb et qu'il entre dans une caverne qui était toute proche de l'endroit où Moïse lui-même s'était tenu 40 jours et 40 nuits en présence de l'Éternel. Que fais-tu ici? Alors Élie répand sa plainte devant l'Éternel. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. J'ai déployé mon zèle, oui. Mais peut-être le sais-tu trop? Peut-être le dis-tu trop, peut-être regardes-tu trop cela, car les enfants d'Israël ont abandonné leur alliance, et je suis resté moi seul. C'est encore là, vous voyez, une erreur, ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, sors de cette caverne, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Alors, et nous pouvons dire que c'est ici, en effet, que le Seigneur a déployé devant Moïse toute sa bonté. C'est là que Dieu a révélé la raison cachée, la grande raison cachée de l'élection de la grâce. La chose qui domine l'élection de la grâce est la chose grande, immense de Dieu sur l'humanité, sur nous maintenant, l'élection de la grâce. Et cette élection de la grâce, il l'a révélée dans cette parole qui tient à la personne, à la gloire de l'Éternel, qui reste attachée et comme la marque de la gloire de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est là que cette grande et magnifique révélation avait été donnée à Moïse, la loi aussi avait été donnée pour qu'il la promulguât, mais ce qui était grand, ce qui était, on peut dire, le don suprême de Dieu, c'était cela, je fais grâce à qui je fais grâce, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Il y aura Ensuite, trois événements ou trois manifestations. D'abord, un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Vous voyez, le vent devait être terrible, devait être vraiment rapide, fort, pour briser les rochers, faire tomber. Et Élie était là, entendant des morceaux, des quartiers de roches se détacher de la montagne et tomber brillamment par terre. Et puis, un vent qui déchirait les montagnes. Première manifestation, puis l'Éternel n'était pas dans le vent, dans ce vent violent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Ah, chers amis, je vous regarde parce que je me dis, si vous aviez été là, ou moi si j'avais été là aussi, je crois que j'aurais eu peur. N'auriez pas eu peur? Entendre ces quartiers, n'est-ce pas, de rochers, brom, brom, tomber, puis alors après, voilà le sol qui se met à trembler. Vous savez, c'est éprouvant un tremblement de terre. Après ce tremblement de terre, un feu. Voici que le prophète Élie se trouve enveloppé, entouré d'un feu. L'Éternel soumet quelquefois ses auxiliaires à de durs moments, à des moments vraiment éprouvants, terribles. Et puis après, c'est un murmure doux et léger. Alors là, Élie, quand il l'entend, il comprend que l'Éternel est dans ce murmure, dans cette brise légère. Alors il s'enveloppe le visage et il sort à l'entrée de la caverne. Eh bien, c'est trois et même quatre manifestations. J'ai entendu là-dessus des prédications, plus d'une fois. Des prédications de polémique. Ah, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Se servir de la parole de Dieu pour diriger une polémique, des flèches contre quelque chose dont on ne veut pas. Surtout quand c'est quelque chose dont on ne veut pas, c'est le plein évangile, c'était ce qu'on nommait à l'époque le pancotisme. Le pancotisme venait de faire son apparition, et alors tous ces mouvements évangéliques, frères, baptistes et autres, ils déclaraient que c'était diabolique. Déclarait que c'était diabolique, je vous assure, moi j'ai assisté à cela. Hein? Et j'ai entendu de la part de missionnaires anglais, je dis c'est la vérité, plusieurs fois les messages, d'ailleurs le message est devenu, ce message là-dessus est devenu classique, figurez-vous, on l'a retrouvé en bien d'autres occasions. Alors, ils disent, voyez-vous, l'Éternel n'est pas dans ce vent violent, l'Éternel n'est pas non plus dans le tremblement de terre. L'Éternel n'est pas dans le feu, il est dans le murmure doux et léger. Alors voyez, les manifestations brillantes que veut la Pentecôte, que l'on recherche dans ces milieux de Pentecôte, tout ça, voyez-vous, c'est pas bon, l'Éternel n'est pas là-dedans, l'Éternel n'est pas dans les exaltations, l'Éternel n'est pas dans ce grand bruit, l'Éternel est dans les petites prières que l'on susurre. N'est-ce pas? L'Éternel est là, tout doucement. Oh, chers amis! Il y a des moments, vraiment, où les gens ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu, mais ce serait le cas de leur dire, par quel esprit êtes-vous inspiré? Et j'ai entendu cela, le missionnaire anglais. J'étais là sur mon banc, et je bouillais. Je me suis contenu, parce que je ne voulais pas être un scandale, mais je bouillais. Je disais, non, c'est pas ça. Et je me disais, le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent impétueux. Et l'Éternel était là. L'Esprit de l'Éternel était dans ce vent. Ici, bien sûr, les choses ont une autre signification que celle que je viens de rappeler, et qui est artificielle, et qui est celle de gens qui voulaient lutter, défendre leur vue, leur manière, et ne pas vraiment se conformer à ce que le Saint-Esprit voulait apporter à l'Église. Alors, la signification, elle est ceci, celle-ci, un vent fort et violent qui déchirait les montagnes. Eh bien, ça, c'est d'abord ce que l'Éternel ne peut manquer de montrer avant qu'il ne vienne. Il ne vient pas, certes, là, parce que là, c'est la manifestation de sa colère et de son jugement sur le péché de la terre. Il faut d'abord qu'il juge le péché. Il faut d'abord qu'il montre combien ce péché est horrible et combien il est destructeur. Il est destructeur, comme ce grand vent le montrait. Et puis, après un tremblement de terre, eh bien, il faut que l'Éternel fasse trembler la terre. Il faut, comme l'Esprit le disait à Jérémie, que tu détruises, et puis que tu rétablisses, que tu construises. Ce qui existe sur la terre, il faut le détruire. Il faut absolument, comme cela se fera d'ailleurs au terme des fléaux, il faut que toutes les villes de la terre tombent, tout ce qui a été l'orgueil de l'homme, dit Ésaïe dans le chapitre 2, il faut que tout cela soit démantelé, tremblement de terre, il faut tout détruire, cela aussi, Dieu le dit, cette leçon-là, il faut la savoir, avant tout, il faut cela. Après le tremblement de terre, un feu qui va être purificateur. Il faut ce feu purificateur, et quand ces choses ont eu lieu, dans le feu purificateur, il n'y a pas seulement le feu qui brûle et qui détruit, mais il y a le feu qui aussi est le feu de l'Esprit de Dieu. Il faut que ce feu ait son temps et son action, et ensuite vient l'Éternel dans toute sa douceur, dans toute sa miséricorde, dans son amour. Il n'est plus un juge, et comme le dit le prophète Sophonie, lorsque le roi sera là sur la terre au milieu de son peuple, il aura des transports d'allégresse pour son peuple, des transports d'allégresse. Dieu veut se montrer cela, miséricordieux, doux, attentif à nos besoins. Voilà la leçon de ce passage, et elle n'est pas polémiste. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage. Et alors l'Éternel va à nouveau poser cette question à Élie, que fais-tu ici, Élie ? Il se peut que l'Éternel nous dise aussi à certains moments, qu'est-ce que tu fais ? Tu as choisi un endroit, tu as choisi une direction que tu as demandé à ta pensée, tu as suivi ta propre pensée, alors où es-tu venu ? Tu n'es plus sur le chemin de Dieu, tu n'es plus engagé du tout sur le chemin de Dieu. Alors l'Éternel va lui dire, va, reprends ton chemin par le désert. Et Élisée, alors, sera celui qui le remplacera sur la terre comme prophète. Et Élie n'en sait pas plus sur le moment, mais voilà ce que l'Éternel lui dit. Il le remet en chemin, il le remet en route, et nous-mêmes, l'Éternel, nous remet en route, en mouvement, et nous dit, poursuis, poursuis ton voyage sur cette terre, poursuis ce pèlerinage vers la cité de Dieu, continue, continue, compte sur ma force, je te donnerai la force qui te conviendra, mais continue, poursuis le voyage, poursuis la route, poursuis le chemin, il est le bien. Que le Seigneur nous aide. Amen.